Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.
Salut!
Hello!
Vous écoutez Meuf à Tub, le podcast qui se réapproprie nos corps et notre sexualité. Je me rends compte donc que le nom Meuf à Tub va probablement nous attirer une foule de mecs cis, probablement un peu fétichistes. Et du coup, puisque vous êtes là, j'ai un petit message pour vous. Vous pouvez rester, mettez-vous à l'aise. Par contre, rendez-vous utile, nos PayPal sont dans nos bios Twitter. N'hésitez pas à aller faire un petit don d'au moins 50 euros pour que votre présence soit acceptée.
On prend aussi les cartes Amazon et les bons de fidélité Noroto.
Donc, je m'appelle Zélie, j'ai 26 ans, je suis une meuf trans non-binaire lesbienne qui fait du TDS à ses heures perdues. Et je suis aujourd'hui, enfin ce soir ou aujourd'hui, bref, accompagnée par deux meufs trop badass qui vont aussi se présenter.
Alors, moi, c'est Auregand, j'ai 24 ans, je suis transfemme, mais très, très non-binaire, voilà. Bonjour, s'il y a d'autres non-binaires. J'aime bien lire des bouquins d'études de genre, ou faire semblant de les avoir lus, ce qui revient au même. Et je me suis retrouvé de fil en aiguille à participer à ce podcast où on fait la bagarre au monde entier.
Alors moi, je m'appelle Cléo, j'ai 22 ans, j'étudie la philosophie et je fais pareil avec les livres, mais en philo. Et j'ai envie de partager mon vécu et plein d'autres choses avec tout le monde.
Alors, nous précisons que ce ne sont pas les alcooliques anonymes, mais bonjour Cléo et bonjour Zélie.
C'est vrai qu'on ne s'est pas dit bonjour, en fait, on a commencé et puis c'était...
Alors déjà, bonjour.
Salut, vous deux, ouais.
Moi, j'ai dit bonjour.
C'est vrai, t'es la plus polie d'entre nous. Donc, le but et principe de notre podcast est de permettre à des meufs trans d'exprimer leurs ressentis, dont mais pas uniquement ceux sur la sexualité et nos rapports à nos corps, dans une dynamique de réappropriation. Malgré notre titre un peu provocateur, il nous semble important de préciser quelques petites choses, que premièrement, c'est un podcast garanti sans injonction, c'est-à-dire qu'on s'appelle Meuf à Tub, mais on ne vous dit pas qu'il ne faut pas faire de vaginaux ou qu'il faut en faire une, d'ailleurs. Certaines d'entre nous en veulent, d'autres n'en veulent pas. Mais dans tous les cas, nous souhaitons nous réapproprier nos corps, qu'ils soient amenés à changer ou à rester tels qu'ils sont aujourd'hui.
En ce qui me concerne, ce sera un pile ou face pour la vaginaux. Voilà.
Moi, c'est qu'un pile.
Le chaos. T'as tellement choisi le chaos, en fait.
Je suis venu détruire les galaxies.
Nous n'avons pas la prétention de représenter toutes les meufs trans, ça me paraît coulé de source, mais c'est important de le préciser, on ne représente que nous en fait, avec l'espoir que nos ressentis, nos doutes, nos fiertés parlent à d'autres personnes. Nous avons aussi conscience, et c'est important de le préciser, que la manière dont on va aborder notre rapport à la transidentité sera un rapport blanc et occidental, qu'il n'est pas, ne peut pas et n'a pas la prétention à être universel. Nous intégrerons d'autres personnes pour ne pas se limiter aux ressentis de notre trio et dès la deuxième émission, donc pas celle-là, la prochaine, il y aura toujours deux invités avec nous qui changeront à chaque fois. De plus, chaque émission sera accompagnée d'une question publique à laquelle chacun et chacune pourra répondre via un enregistrement ou un texte écrit. Tous ne pourront probablement pas être passés, ça, il y aura une petite sélection qui sera faite. On va utiliser toutes sortes de termes pour parler de nos parties génitales, à savoir les termes que nous utilisons pour les nommer. Ce sont des termes qui peuvent être choquants, qui pourraient être amenés à varier car rien n'est jamais ancré dans la pierre. Aujourd'hui, par exemple, je parle de ma bite. Peut-être que demain, je parlerai d'autre chose. Qui sait ? En revanche, cela ne signifie pas que, selon nous, toutes les personnes transféminines doivent appeler leur partie génitale de la même manière que nous. Encore une fois, tout ça me paraît aller de soi. Mais c'est important qu'on le précise et il y aura des petits rappels comme ça à chaque fois que ce qu'on dit ne concerne que nous et nos invités.
Vos parties, vos termes.
Exactement.
Merci Zélie pour cette belle introduction. J'espère que vous êtes encore là parce que le meilleur de l'émission arrive.
Dis-tu tout de suite que je suis chiante quand je parle en fait.
Mais non, le meilleur c'est quand t'as commencé et le meilleur 2, c'est la suite.
Ok, ok, ok. Et je vais passer la parole comme si c'était un ballon à Cléo pour qu'elle nous dise un peu de quoi on va parler dans cette première émission.
On a pris comme point de départ un sujet qui nous tient à cœur. On a voulu parler de beauté. Pas sur 10 heures de 4 heures, mais plutôt en ce qui concerne nos vécus, comment on se voit. Mais comment on se voit, ça part d'abord de comment est-ce qu'on nous voit. Donc c'est pour ça qu'on veut parler de notre beauté non fétichisée, de nos corps transfèmes, mais des corps transfèmes en général. C'est le grand sujet. Enfin, c'est le sujet qui a un peu fait naître le projet. Non fétichisés parce que d'office ils le sont en fait, de par comment est-ce qu'ils sont vus. Les termes qu'on utilise pour juste nous désigner partout dans notre société, ils sont dérivés du porno. On est vu globalement que plus ou moins que comme des femmes habites. C'est pas forcément, enfin c'est censé être une insulte, dans notre cas ça le sera plus. Enfin, on veut faire en sorte que ça ne le soit plus. On veut faire en sorte que le regard qu'on porte sur nos corps soit désexualisé, désexualisable, ou en tout cas que le consentement et nos envies soient remis au centre de tout. On veut parler de nos corps tels qu'ils sont maintenant, pour nous et pour d'autres personnes, et tels qu'ils l'ont été ou sont encore pour d'autres personnes transfemmes. On a évoqué des opérations qui changent le corps. C'est pas un vécu qui est partagé par tout le monde. Mais c'est un vécu qui est aussi important que les autres. Et donc, on va parler de corps mis à nu, mais soit en nos règles et en faisant un pas de côté de ce à quoi on est tout le temps renvoyé. On réaffirme notre féminité, non pas malgré notre corps, mais avec lui. Avec dysphorie, euphorie, tout ce qui le compose. Mais voilà, ça passe d'abord par une réappropriation et ce gros pas de côté de la fétichisation automatique auquel on est renvoyé.
Maintenant, en fait, comment ça va se passer à chaque émission ? En fait, chacune d'entre nous a soit un texte que elle a écrit, soit un média à présenter. Du coup, chacune d'entre nous va soit lire son texte, soit présenter le média en question qu'elle veut présenter. Et après, on va en discuter ensemble. À chaque fois, c'est pour lancer la conversation, en fait. Parce que le but va être donc de parler, et comme Cléo l'a dit, là, de parler de la beauté non fétichisée des corps transfèmes. Je vais ouvrir un peu la danse avec un texte que j'ai écrit il y a quelques semaines. Je suis désolée, ça donne l'impression que je parle beaucoup, et c'est vrai, je parle beaucoup généralement, mais non, je vais quand même essayer de me contrôler. Non. Et encore, j'ai pas parlé du pipi à Charleville-Mézières, et je le place juste parce que mes fans attendent ça.
Non, pas de fan service, en fait.
Ok. Du coup, je vais juste faire une petite introduction sur mon texte, parce que mon texte... je l'écris avant même qu'on commence à penser à ce podcast. En fait, c'était à la base juste un thread Twitter que j'ai écrit sur mon compte privé où je parlais de... comme je l'ai dit, lorsque je me suis présenté, je fais du TDS. Et via le TDS, je me suis rendu compte que mon corps était hyper sexualisé et vraiment vu comme un objet de fantasme et juste un jouet sexuel. Et je me suis rendu compte que ça commençait à impacter ma façon de me voir. C'était assez lourd et du coup j'ai commencé à écrire ce thread qui n'est pas très positif au début. Quand je vais le dire, vous allez vous rendre compte, le début est un peu négatif. Sauf que pendant que je l'écrivais, il s'est passé un truc assez cool. J'ai vu qu'il y avait des meufs trans qui me lisaient, qui le likaient en fait. Et du coup, au fur et à mesure que j'ai continué à l'écrire, j'ai décidé de m'adresser à elles et de m'adresser à vous, puisque je suppose que parmi les nombreux mecs cis fétichiseurs qui nous écoutent, il y a quand même... Des meufs trans. J'espère qu'il y a des meufs trans qui nous écoutent vraiment.
Des petits œufs. C'est bientôt pas qu'on va ramasser les œufs.
Il y a pas mal qui sont en cours en tout cas.
Et toujours est-il que ce texte, après, je l'ai publié sur un serveur trans communautaire et il a donné naissance à plein de belles choses. Une volonté par les meufs de se réapproprier leur corps d'une manière non sexualisée. Et je trouve que ce texte, sans vouloir m'attribuer le mérite de ce qui se passe avec ce podcast, c'est un peu ce texte qui a lancé toute cette volonté de se réapproprier plein de choses, qui reste un travail de groupe, hein, mais enfin bref, mon introduction est super longue, je m'excuse, j'ai prévenu, je parle beaucoup. Donc je vais me lancer dans ma lecture. Je commence à me dire que c'est compliqué, en tant que transfemme, de passer outre l'hypersexualisation de nos corps. Que ça nous touche forcément aussi. Le seul modèle avec lequel j'ai grandi, c'est le porno. C'est la seule vision que je possède d'un corps comme le mien. Et c'est relou. Ça en devient compliqué d'avoir un rapport sain à son corps dans ces conditions. Juste en étant trans, on est vu comme des objets de désir ou de fantasme. On pourrait dire que c'est le cas des meufs cis, et c'est vrai. Mais nos corps, à nous, sont vus comme un tabou, une anomalie. Le corps des meufs cis est bien sûr sexualisé, mais il n'a pas ce côté choquant que les nôtres ont. Les meufs cis ont l'espoir de pouvoir se le réapproprier un jour. Nous, j'ai parfois l'impression que non. Que je vais vivre en me voyant comme un bug par transmisogynie intériorisée. Parce que je n'ai aucune autre opportunité de voir autre chose dans le miroir. Faire du TDS a aggravé ça. Ça me donne l'impression de reprendre le contrôle sur ma sexualité, et c'est très précieux. Mais je le paye en la vision que j'ai de moi-même. Sur Twitter, j'étais tombée sur le dessin d'une meuf trans nue en train de fumer. J'ai fondu en larmes. C'était la première fois, et seule fois, que je voyais un corps comme le mien, dans un contexte non porno ou érotique. J'ai besoin de plus de moments comme ça, pour intégrer que mon corps n'est pas une anomalie, pas juste une horreur ou un objet de fantasme. J'en ai tellement, tellement besoin. Une meuf habite, ça sonne vulgaire. Pourtant, ça peut être très beau. Pas d'une beauté surnaturelle, mais d'une beauté banale. Le genre de beauté d'une meuf juste en train de fumer à sa fenêtre. Nos corps sont beaux, et je hais les gens qui me font penser le contraire. Juste des pensées du soir que j'inscris ici comme une bouteille à la mer, en me disant que ça pourrait aider d'autres personnes dans mon cas. Meuf, t'es belle. Pas grâce à ta bite, pas malgré ta bite. T'es belle et c'est l'ensemble de ce que tu es que je trouve beau. Je parle à qui ? À moi-même et à toutes mes sœurs. Parce que vous êtes mes sœurs, les transfemmes, que vous le vouliez ou non. Je vous aime et je vous trouve belle. Je vous aime quand vous vous maquillez pour la première fois d'une main maladroite. Je vous aime quand vous ne vous maquillez pas. Je vous aime quand vous forcez à correspondre aux normes de la féminité, que ce soit parce que ça vous plaît ou si vous vous sentez obligé. Je vous aime que vous vouliez faire une vagino ou pas, que vous en ayez eu une ou pas. Je vous aime même si vous, vous ne vous aimez pas. Je vous trouve belle même lorsque vous, vous n'y arrivez pas et que vous vous trouvez laide. Je vous aime que vous soyez tous les jours en jupe ou jamais. Je vous aime parce que je suis un peu comme vous et un peu tout ça à la fois. Et je vous aime parce que vous êtes encore là, que vous survivez malgré ce monde de merde qui nous hurle qu'on est laide, que chaque jour est une victoire dans un monde qui veut notre mort et qu'on a le droit de célébrer. Et de toute façon, je n'ai pas besoin d'avoir de raison de vous aimer. Cependant, si je devais en garder qu'une, c'est que sans vous, sans vos victoires et vos défaites, Zélie ne serait qu'un rêve dans un coin de ma tête auquel je songerais le soir en pleurant. Je suis là grâce à vous et je vous aime. Merci d'être vous, d'exister et de rendre ça possible. De créer un monde sous le monde réel dans lequel une meuf habite, finalement, c'est pas si anormal. Certains de mes mots sont peut-être maladroits, je m'en excuse, j'ai juste suivi le fil de ma pensée. Comme je l'ai dit, une bouteille à la mer. Meuf, t'es plus forte que tu le penses si là en ce moment t'es en train de m'écouter.
Bon bah écoute, on est contente que Zélie ne soit pas qu'un songe pour avoir au moins écrit ce texte.
J'ai globalement pleuré la première fois que j'ai lu le texte et en l'entendant, j'ai plus ou moins pleuré une deuxième fois.
Bah c'est vrai qu'avoir des témoignages qui sont positifs et inconditionnels, c'est bien en fait. Enfin, juste le concept de pas avoir quelque chose à prouver, de pas avoir de conditions, on n'y est pas forcément habitué par rapport à qui on est ou qui on devrait être.
Oui, c'est ça. C'est un peu un peu avoir la puissance de se désencombrer des tas d'injonctions qu'on nous fait. Et en même temps, se rendre compte que le regard qu'on se porte sur nous-mêmes, il est conditionné. Mais on peut aussi le conditionner en bien. Et c'est un peu ce que tu fais à la fin.
C'est ça. C'est qu'en fait, toute la dernière partie qui est destinée, comme je le dis, à toutes les autres transfemmes et à moi-même, ça parle un peu de ces injonctions qu'on a Enfin, notamment, je parle à un moment de si vous forcez à correspondre aux normes de la féminité, que ce soit parce que ça vous plaît ou si vous sentez obligé. En fait, il y a ce rapport un peu compliqué. Enfin, moi, je sais pas vous, mais j'ai toujours peur d'être soit trop féminine, soit pas assez. En fait, j'ai l'impression que peu importe comment je serai, on me le reprochera. En fait, si je suis trop féminine, on va dire bah oui, elle est trop féminine parce que c'est une meuf trans et elle sait pas c'est quoi la vraie féminité. Et si je suis pas assez féminine, on va dire bah ouais, mais c'est une meuf trans, c'est pas censé être féminin, c'est pas pour de vrai, du coup.
Bah, c'est ce qu'on voit tout le temps sur les réseaux, du genre « Oh là là, tu reproduis les stéréotypes de genre » ou alors « Ah, à l'inverse, t'as un camion mal peint » ou la fameuse brique. Donc c'est ça en fait, c'est on gagne jamais quand on est transfemme.
Et d'un côté, ce texte que je l'écris, il est très revendicateur et je parais très sûr de moi quand je l'écris. Mais dites-vous que par moments, c'est super dur de sortir en jupe dans la rue en fait. Au début de ma transition, je ne portais que des jupes, parce que j'étais persuadée que sans jupe, j'aurais pas de passing. Et maintenant, j'ai peur d'en mettre, parce que je me dis, mais en fait, si on sait que je suis trans, on va se dire que je surjoue la féminité. En fait, c'est compliqué de, de juste faire abstraction de tout ça, je trouve.
Il y a certains accessoires qui sont très OK, genre un pantalon par exemple. Ben, aujourd'hui, c'est en France en tout cas, c'est plus si grave. Mais c'est vrai que pour mettre genre une jupe ou du rouge à lèvres, enfin, il y a certains trucs qui sont tellement marqués, qui sont tellement genrés, que tu as intérêt à avoir des épaules solides ou d'en avoir bien rien à faire pour pouvoir les avoir, quoi.
Et puis même enfin, je sais pas si vous repensez à vos juste les premières fois que vous avez voulu le faire, enfin, c'est terrorisant en fait. Le regard, enfin, la peur des regards des autres, la peur de même le regard qu'on se porte sur soi, c'est on le vit beaucoup par la peur d'abord.
C'est intéressant ce que tu dis, ça me rappelle enfin une réalisation que j'ai faite en début de transition, c'est toujours le début, bref, on s'en fout, qui était que en fait je fantasmais un peu l'oppression parce que je me disais toujours non, je peux pas faire ça parce que les gens vont me détester et au final je sais plus si c'est le regard des autres dont j'ai peur ou le regard des autres que j'imagine sur moi et donc un peu le mien aussi, enfin ça se mélange complètement ces thèmes-là.
Et ça, j'essaie de le. Enfin, quand je dis vous maquiller pour la première fois d'une main maladroite, parce qu'en
Oui.
fait, dans la trans. Enfin, encore une fois, je ne fais pas de généralité, mais dans mon vécu de la transidentité, il y a ce fait qu'il y a plein de codes de la féminité qu'on est obligé de réapprendre, mais sur le tard. Et c'était dans une de ces vidéos, Yuffie, je crois que c'est Yuffie, le nom de la vidéaste, qui parle du fait que une petite fille qui va se prendre le maquillage de sa mère et se maquiller n'importe comment,
Ouais.
c'est mignon, vous voyez. Par contre, lorsque c'est une meuf trans adulte qui fait ça, bah, c'est tout de suite moins vu comme mignon, en fait. C'est vu comme ridicule, vous voyez. Il y a une espèce de grosse dureté quand même, malgré tout, envers nous.
Ouais.
Carrément.
J'en en profite pour faire un disclaimer. Ne vous moquez jamais du style vestimentaire ou du maquillage d'une meuf trans parce que ça fait peut-être que 2 mois qu'elle a commencé et vous avez eu toute votre vie et donc la comparaison ne tient pas.
Sinon, vous pouvez ne vous moquer du style de personne, en fait. Arrêtez de vous moquer du style des gens, genre du maquillage, etc. Parce que enfin, c'est comme, vous voyez, les blagues sur la calvitie où, bah ouais, mais les meufs trans sont aussi très touchées. Enfin, moi, je le prends mal, j'ai eu très peur d'avoir une calvitie à un moment. Donc, quand quelqu'un fait une blague sur la calvitie, moi, je cringe un peu des dents, en fait. Parce que, enfin, je sais pas.
Si, clairement. Et je vais dire un truc, mais je crois que je l'ai un peu oublié.
Ça arrive, ça te reviendra. Si tout va bien.
Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie partie de la lutte qu'il faut surtout pas négliger, qui est redonner de l'importance aux petits gestes. Genre typiquement, une meuf trans qui tente un eyeliner pour la première fois et qui se dit « je vais jamais y arriver ». Bah, enfin, si, donc cette scène-là n'est pas trop violente, évidemment, mais ça peut être mignon et sans dire c'est une petite fille mignonne, il y a quelque chose d'une tendresse enfantine qu'il faut apprendre à voir et à respecter, et bah ça fait partie du jeu quelque part.
Oui, avoir pour soi, parce que du coup, c'est en fait l'eyeliner, c'est précisément ce que je voulais dire. Parce que de mon vécu, j'ai tenté une seule fois d'en mettre. Je pense que j'en ai pris un bon, donc je suis pas tellement limité par ça, mais je suis limité par vraiment juste le fait que j'ai peur en fait. J'ai peur de le prendre, j'ai peur de moi-même, en fait, de manière intériorisée, de pas avoir une fille mignonne qui fait des essais et qui ne sait pas faire et qui apprend. Mais. Ouais, d'avoir le stéréotype transphobe en tête, puisque ce qui se produit, juste une meuf qui apprend à se maquiller.
Ouais, bah je sais que moi il y a des trucs comme ça ou des trucs où vraiment j'aime bien donc je m'en fous un peu, mais d'autres où c'est vraiment dur, genre le blush par exemple, c'est tellement facile d'avoir l'air de bah soit une petite fille qui sait pas se maquiller, soit des stéréotypes de travailleuse du sexe super dégradants dans notre société que du coup bah, je veux jamais en mettre parce que je me dis c'est dangereux quoi par rapport à moi-même. Toi Zélie, il y a des d'autres choses que les jupes qui t'ont particulièrement posé problème pour des raisons assez pas forcément rationnel.
Je réfléchis, mais en fait, en gros, il y a eu tout du long cette peur. Finalement, j'aime bien, on parle plus du rapport à la féminité. Et c'est ça que je
C'était
trouvais cool, c'est que
sûr.
c'était sûr qu'on allait se laisser porter par les conversations. Et mon texte, je pensais qu'il allait nous faire parler plus de pénis, de bonne vieille teubasse, d'ultra chibrax, comme on dit dans le milieu. Mais on parle plus de
Un
maquillage
bon
et de chansons.
chiffron bien dur.
Moi, c'est en fait souvent j'ai eu pendant une période. Maintenant, ça va mieux, mais très peur que dès que je faisais quelque chose, que je testais quelque chose, je savais pas si je le faisais parce que j'en avais envie
Ouais.
ou parce que je me sentais obligée en fait. Et maintenant, vu que ça fait
C'est
quelque
mon
temps maintenant,
quotidien.
enfin, je sais que ce que je fais maintenant, c'est parce que je l'aime. Par exemple, au début de transition, je me maquillais, je mettais du fond de teint tout le temps dès que je sortais parce que je refusais que la trace de ma barbe soit visible. Maintenant, je mets juste des traits d'eyeliner parce que bah, je commence à savoir comment on met et que du coup, il y a des meufs cis qui me demandent de leur donner des conseils pour le mettre et je trouve ça tellement improbable que ça m'arrive. Mais du coup, c'est le seul truc que je mets et je sais que je mets ça parce que ça me plaît, en fait. Pareil, je mets des boucles d'oreilles, mais en fait, je trouve que mon rapport... Enfin, je suis vachement sereine maintenant dans mon rapport à la féminité, mais ça a pris du temps, en tout cas.
C'est vraiment comme dans Bloodborne, genre quand tu donnes un conseil de make-up alors que t'es trans à une meuf cis, t'as vraiment le comme dans Bloodborne, l'écran vert en gros qui s'affiche « Pray, slaughter !»
C'est ça, ouais, non, mais je te jure, bon, en fait, c'est juste que, bah, du coup, y a plein de meufs cis qui savent pas se maquiller non plus, en fait. Genre, oui. Vraiment pas, tu vois.
C'est vrai que dans la catégorie, est-ce qu'on peut dire un truc un peu pédagogique dans notre podcast, qui est que, oui, là, il y a des meufs cis qui ont des épaules larges, ou qui savent pas se maquiller, ou, enfin, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des standards qui sont vite délirants, notamment parce qu'on tourne en rond parfois, des fois aussi, quand on est trans.
En fait, on se compare, mais en réalité, je pense, des fois, on se compare pas à la réalité, on se compare à l'image qu'on en a, et on est vachement dur avec soi-même, je trouve, des fois, parce que on n'a pas à être parfaite, en fait. Et c'est facile à dire, j'en ai conscience. Hein, arrête, tu es dysphorique.
Arrête.
Non, littéralement, tu vois. Je sais que c'est pas si simple que ça, vraiment pas, mais on est vachement dur avec soi-même. Et moi, je sais que je le suis encore énormément. Enfin, je sais que des fois, j'ai des crises où j'ai l'impression que le peu de barbe qui me reste se voit énormément. Et j'ai mes amis qui me disent, mais Zélie, on voit que dalle, calme-toi. Mais je pense qu'il faut apprendre à être vachement tolérante avec soi-même. En tout cas, moi, c'est le message que j'ai envie de dire, c'est soyez pas trop dur avec vous. Vous êtes dur avec vous-même, arrêtez.
Ça prend du temps. Hein.
Bien sûr.
Je teste, mais ça prend du temps. Mais c'est un très bon conseil. Hein. Vraiment, on sous-estime vraiment la dureté de comment est-ce qu'on est nous-mêmes et des standards qu'on a intériorisés et qu'on... Et on ne sait pas forcément où se situer ou quoi. Et bah, en fait, c'est normal de patiner. Enfin, si on parle autant d'expérimentation sur les sous-reddits de questionnement, enfin le sous-reddit de questionnement, par exemple, ou quand on parle de questionnement en général, c'est justement pour ça. Parce que ça prend du temps, c'est des petits pas. Et c'est parfois des plus gros, parfois des plus petits, parfois des... Voilà, dans une gradation qui est plus anarchique que d'autres. Mais c'est important de se laisser du temps.
Le rapport.
Je précise juste mon tu es dysphorique et machin, c'était vraiment juste une blague. J'ai conscience, comme l'a dit Cléo, et je remercie Cléo de l'avoir dit, que c'est un truc qui prend énormément de temps en réalité, hein, parce que bah, moi je ne l'ai pas fini encore. Donc vraiment, j'espère que j'ai vexé personne en disant ça. C'était vraiment un trait d'humour. C'est Zélie qui essaye d'être drôle, quoi, rien de plus.
Mais je trouve que cette question-là, pareil, c'est encore un truc dont on parle jamais, mais le rapport au temps, enfin. Certains trucs, je m'étais dit, genre peut-être il y a 3 mois, j'arrivais pas à le penser ou à me le dire. Je me disais, j'y arriverai jamais toute ma vie. Et puis je me faisais des spirales d'horreur comme ça dans ma tête. Et juste, tu passes à autre chose. Enfin, je dis pas, tu peux passer à autre chose. Il y a certains trucs où tu peux pas. Mais certains détails, certains, ne serait-ce que trucs de make-up ou vêtements que j'aurais aimé mettre. Bah, juste en attendant, il y a le truc qui m'asserre un peu. Et puis ça devient possible au bout d'un moment. Et se dire que il faut prendre le temps. Bon, déjà, tout le monde ne peut pas parce qu'il y en a qui attendent des années avant de transitionner ou quoi. Mais quand c'est possible, c'est bien d'essayer de se dire que c'est pas un speedrun.
Et c'est dur, en fait, je pense, parce qu'en début de transition, on a envie que les choses aillent vite, en fait. Et plein de choses, effectivement, comme le dit Aurégane, vont super lentement, rien que les effets des hormones. Et c'est dur de se dire qu'il faut attendre et qu'il faut accepter. Enfin, que c'est pas la première fois qu'on met de l'eyeliner, qu'on va réussir à faire un trait fantastique, en fait. Et en fait, les choses. Et c'est très frustrant de se dire que les choses ont besoin de temps pour avancer. Je vous propose donc, ça c'était pour le premier texte, production de Zélie. Passons donc au deuxième texte qui va être lu par Aurégane, il me semble, si j'ai bien suivi dans quel ordre on a.
Il me semble aussi, tout à fait. Alors je vais vous lire mon texte. Je vais donc pouvoir commencer à lire mon texte et ensuite on va en discuter, sauf si on n'a pas envie d'en discuter, ce qui est possible, mais qui serait peut-être un peu désagréable. Bref, je digresse. Donc, comme je n'ai aucune personnalité, je vais commencer par citer le webzine d'une sœur partie récemment, à laquelle à l'échelle du podcast et de toute la communauté, souhaite au passage lui rendre hommage. Moi, je la connaissais pas. Mais du peu que j'ai vu de son travail, elle était inspirante et lumineuse. Donc, dans son webzine « Baiser des meufs trans », elle met en avant plusieurs choses très intéressantes. Par exemple, elle parle de « Comment baiser des meufs trans ». Je sais, c'est surprenant, mais c'est de ça que ça parle. Ce qu'elle met en avant dans ce texte, c'est notamment certains préjugés et dont un idéal physique qui est systématiquement présent dans la culture occidentale et dont on parle trop peu souvent. On a ces stéréotypes sur les mannequins qui sont trop maigres, sur les exigences délirantes et incohérentes envers la féminité. Il y a aussi le fait que les hommes ont que la muscu pour affirmer leur genre par le corps. Enfin, ce genre de stéréotypes. Mais ce dont on parle pas trop, c'est de la dialectique entre le mou et le dur. Donc moi, je vais parler de mollesse. Donc son texte que je vais citer commence de la façon suivante. Nos corps ne sont pas durs par nature. Les os, les ongles et les cartilages en sont les parties les plus dures, mais ils peuvent être aussi les plus fragiles, les plus cassantes. Sous la surface de notre peau malléable, on trouve des veines, des graisses molles sous-cutanées, des nerfs caoutchouteux, des tendons, des muscles charnus et des organes mous. Nous avons des culs, des seins, des petites bedaines. Nous avons des doubles mentons, des bourrelets, des cuisses. Là où il n'y a pas de graisse, il y a de l'eau dans notre sang et dans nos muscles. En tout, nos corps sont composés à 70% d'eau. Nos corps sont donc très mous. Mais on peut remodeler nos façons de voir nos corps. C'est formidable en fait. Nos esprits et nos mots ont une grande élasticité. Nos corps sont limités par les mots que nous avons à notre disposition, mais nous sommes comme des personnages dans un tableau, avec de vrais pinceaux pour peindre sur ce qui est déjà présent. Comme dans une peinture, les retouches que l'on fait peuvent être modifiées par les autres. Mais au moins, on a un pinceau. Les corps des femmes trans sont des corps mous. Premièrement parce que nos corps sont des corps humains. C'est fou, mais c'est vrai. Nos corps sont mous parce qu'ils en ont l'air, et pas aussi parce que nous disons qu'ils le sont. Tant de ce que nous sommes et de ce que nous ressentons est lié à comment nous le formulons. La mollesse en fait partie. Ainsi, nos corps peuvent être des corps mous. Et je vais aller plus loin en disant qu'ils devraient être des corps mous. Je veux pas dire que comme toutes les femmes, notre peau devrait être douce, molle comme du beurre, souvent en utilisant tel ou tel produit. Je veux dire que nous devrions faire l'effort de remarquer que certaines parties de nos corps sont molles et qu'on devrait les respecter pour cela. On devrait rendre honneur tant aux parties molles qu'aux dures, ainsi qu'au fait qu'elles peuvent alterner entre ces deux états, si vous voyez ce que je veux dire. Les muscles travaillent en groupe et certains sont toujours en repos, non tendus, mous. Notre chair est molle. C'est un mou magnifique. C'est un mou sexy. C'est suffisamment mou et jamais pas assez dur. Le mou est beau, sexy, merveilleux. Fin de la citation. Donc moi, ce texte m'a vraiment parlé sur un plan personnel. Donc je vous le conseille déjà en général, mais cette partie plus spécifique, je suis tombé dessus au tout début de ma transition hormonale. Et j'étais en plein doute sur mon corps. C'est pas terminé, mais particulièrement à ce moment-là. Cette politique des corps durs, comme on peut l'appeler, moi je l'avais vraiment intériorisée malgré moi. Quand j'essayais de vivre une vie de mec, ce qui a duré environ 24 ans, 6, j'avais une constante haine de tout ce qui pouvait être mou dans mon corps. Des joues, le ventre, tout ce que vous voulez. Alors que c'est un mythe, c'est un mensonge, le corps tout dur, ça n'existe pas. Même un gros tas de muscles, comme on peut en avoir comme ami, si on aime la muscu notamment, est mou au repos. Et du coup, la transition hormonale féminisante qui fait fondre les muscles du torse et des bras, qui fait pousser les seins, gonfler les fesses et les cuisses, bah ça m'interrogeait. Je me sentais mal à l'idée de perdre la dureté, relative parce que bon, voilà, amassée après de pénibles efforts sportifs. Je dis pas qu'il faut négliger son corps et à tout prix, mais je dis juste qu'il y a quelque chose de triste quand on veut durcir son corps par haine de soi. Et lire ce texte m'a vraiment ouvert les yeux sur les beautés du mou. Donc j'en arrive au thème de la sexualité qui est un de nos fils rouges. Pour moi, il faut, et pour plein d'autres gens, dont l'autrice de ce zine, il faut déconstruire le mythe du pénis comme soit dur, soit inintéressant. Il y a tellement plus de choses, tellement plus de nuances. Cette déconstruction, déjà, elle aiderait les mecs cis à ne plus voir leur valeur en tant qu'être humain disparaître avec la moindre petite panne. Mais surtout, les meufs à tub, que nous représentons à notre échelle ce soir, ce matin, je sais pas, proposent une aventure phallique tellement belle, tellement de formes de bites, de pratiques différentes. On apprend à se connaître durant la puberté masculine, ou pas. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ça. Moi, c'était yahoo, yahoo. Et avec la seconde puberté, on recommence tout à zéro. Tu sais plus comment il marche ton corps, tu sais plus. Du coup, comme on a fait deux pubertés avec une tub, bah, on finit, pour certains d'entre nous, à devenir trop forte en bite. Moi, j'imagine un monde dans lequel le sujet de la tub est discuté durant des conversations à bâtons rompus qui voient collaborer, main dans la main, les gens à bite de tous les genres, mecs cis, meufs trans, etc. Plus sérieusement, la transition hormonale féminisante reconfigure complètement toute la sexualité. On en vient à ressentir de l'excitation sans érection, à jouir sans éjaculer, et pour certaines, à ne plus bander sans que ce soit un problème. Pour d'autres, l'éjaculation est encore plus importante qu'avant et les érections, eh bien, aussi érigées qu'avant. Chacune ses propres évolutions. C'est vraiment, ça dépend complètement. Comme ça, ceux qui avaient des questions indiscrètes, c'est répondu. Merci de rien, les PayPal en description, on se rappelle. Donc ça implique évidemment une sexualité basée sur la communication, que ce soit avec ses partenaires et avec soi-même. Mais quelle sexualité ne gagne finalement pas à l'être? Je vous le demande. La question à 35 milliards d'euros. En tout cas, vivre ces changements, moi, me fait aimer ma bite et celle que je fantasme, qui existe vraiment, qu'elle soit molle ou pas. Ça me fait ressentir de l'excitation quand je suis dans un contexte sexuel de voir une bite pas en érection. C'est incroyablement érotique, ce côté mou, qui se plie dans tous les sens, qui s'adapte aux caresses reçues. Il y a une langueur qui rappelle un peu la vibe des tableaux orientalistes avec des odalisques mollement allongées, offertes leur charme à tous les regards indiscrets, comme on en voit 10 à la douzaine dans les musées. Pas mou au sens de pas encore en érection, mais mou au sens le plus simple de complet et comblé.
Je trouve que ce serait pas approprié dans un podcast, mais du coup, vu que j'ai vaguement lu ton texte avant, là j'ai envie d'applaudir maintenant que je t'ai entendu le lire. Mais du coup, je me dis que c'est un peu nul de. J'applaudis mentalement. Là, vous me voyez pas, mais mes collègues me voient. Je fais le signe pour dire que j'applaudis.
Bah, merci.
Je trouve que y a plein de trucs sur lesquels ça donne envie de rebondir, en fait. Parce que vraiment, ça aborde plein de sujets. À la fois le texte de Mirza que tu as cité. Et tout ce que tu as rajouté par rapport à ça, je trouve à la fois de, enfin tout ce que tu parles, un vécu qui moi me parle pas parce que mon vécu est très différent, mais du fait que de ce que je comprends, toi tu as fait pas mal de sport avant ta transition, du coup tu avais un corps, de ce que je comprends, tu me dis si je me trompe, mais dur dans le sens musclé et que tu avais peur de perdre ça, c'est ça?
Bah en fait c'est ça, c'est-à-dire que j'ai pas fait énormément de sport parce que j'étais avant tout une grosse loque, mais le sport que j'avais fait c'était parce que j'aimais pas que mes bras soient mous, qu'on voit pas des abdos, que j'ai du ventre, enfin c'était très du sport contre moi-même en fait, et pas genre avec moi.
C'est super intéressant le terme contre.
Ouais, bah c'est très dur, c'est souvent en rétrospective que tu vois ce genre de choses. Et là, j'ai repris le sport avec la transition, et c'est avec moi parce que je sais quelle partie de mon corps j'ai envie ou pas de modifier. Enfin, c'est assez libérateur.
Je sais qu'il y a des sœurs qui sont vachement dysphoriques quand elles font du sport, notamment parce qu'il y a la peur, ou peut-être que c'est le cas, j'en sais rien, que le corps reprend des formes plus masculines si on le muscle. Moi, j'ai commencé à faire très vaguement du sport. Genre, je fais des abdos. Ma copine se foutrait de ma gueule si elle m'entend dire que je fais du sport. Mais en fait, je me suis rendu compte que moi, faire du sport au début, ça me rendait super euphorique parce qu'en fait, le sport et le fait d'être musclé, j'associais ça aux lesbiennes super butch.
Oui.
Et du coup, je trouvais ça super euphorisant à faire, en fait.
Mais ce que j'aime vraiment beaucoup dans ta conclusion, c'est que quand tu associes mou en stade de pré-rectile, c'est hyper parlant dans la manière dont on le voit, en fait. C'est souvent, enfin, comment dire, par exemple, en fait, on peut lier à plein d'autres types de pression que personnellement, je n'ai pas dans mon vécu, mais par exemple, être maigre, c'est ne pas être gros. C'est du coup, par exemple, de la même manière, ça enlève complètement la manière d'exister que ça pourrait avoir.
Bah, c'est vrai que définir les choses en négatif, c'est un peu leur refuser d'exister en tant que tel.
Oui, c'est exactement ça.
J'ai l'impression que c'est le genre de truc que ça serait très utile pour des mecs cis aussi à entendre, en fait. Là, on parle principalement de... En fait, j'ai l'impression que en fait, beaucoup de choses qu'on vit, c'est aussi les pressions qu'on vivait avant nos transitions, et notamment le pénis, je trouve que... Et justement, les mecs cis, on parle pas tellement au-delà de l'espèce de blague autour de la teub, bite, etc. Il n'y a pas tant de conversations... Enfin, moi, je me souviens pas, avant ma transition, d'avoir des grandes conversations sur le pénis avec mes potes mecs cis. J'en ai pas beaucoup en même temps. Mais en fait, je trouve qu'on subit vraiment les pressions qu'il y a dessus, en fait.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que quand... nous, on en parlait vachement, mais c'était vraiment, comme tu dis, la blague potache... avoir une taille disproportionnée, comparatif un peu gênant entre deux bières, ouais. C'était pas genre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec. Enfin, il faut une pragmatique de la teub pour les mecs cis, ils en ont besoin.
Et puis, accessoirement, la manière dont on la mesure, c'est jamais repos.
Bien sûr.
Donc en fait, encore une fois, elles existent un peu que d'une seule manière.
Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que pourquoi on mesurait pas la teub au repos? Bon, je vois très bien les pourquoi. Mais ça voudrait dire que dans un des cas, il est plus intéressant, mieux qu'un autre. Enfin, en vrai, il y a moyen de s'amuser dans tous les cas, et il faut jamais l'oublier, ça.
Mais je trouve que tout ce que tu dis est bon, c'est des sujets qu'on réabordera. Si vous êtes frustré en nous écoutant parce que vous trouvez qu'on parle de plein de choses, genre on a parlé de maquillage, de rapport à la féminité, là on parle de sexualité un peu, tout ça, c'est des on aura des émissions spécifiques là-dessus aussi à des moments. Mais je trouve que justement, le changement, en fait, déjà, je trouve. En fait, faut pas généraliser non plus parce que c'est pas des changements chez tout le monde. Moi, j'ai principalement relationné depuis ma transition avec des meufs trans. Et du coup, même sous hormones, j'ai rencontré des meufs trans où le pénis avait pas tellement changé, en fait, sous les oestros. Mais du coup, c'est des choses qui, pour moi, sont importantes à dire pour toutes les personnes à pénis, vraiment, en fait, qu'un pénis au repos et pas un pénis inutile, que c'est pas parce que le pénis est au repos que ça s'arrête, en fait. En fait, il y a tellement l'impression, j'ai l'impression, dans le sexe hétéro, un peu nul, excusez-moi, jugement de valeur, mais que éjaculation masculine égale fin. Vous voyez, genre que lorsqu'il y a jouissance du pénis, c'est terminé. Et je n'étais pas comme ça avant ma transition, mais je suis sûr que j'aurais pu l'être à l'époque. Mais maintenant, en fait, quand je couche avec quelqu'un, bah, c'est rare que moi je jouisse, en fait, en réalité. Et pourtant, je kiffe vachement plus ma sexualité maintenant qu'avant. Et pourtant, bah, je jouis beaucoup. En fait, je trouvais qu'il y avait un côté presque mécanique, en fait, vous voyez, à ça. Genre, ça faisait retomber la pression d'un coup, etc. Et je trouve ça vachement plus serein maintenant que je suis plus focalisée là-dessus, en fait.
Moi, ça me fait carrément dysfo, mais oui, clairement, j'ai sur ce rapport-là, je vois très bien ce que tu veux dire.
Qu'est-ce qui te fait dysfo?
Le enfin, genre la fin, genre le fil lui-même, enfin, il y a tas de choses qui me révulsent.
Ok, ouais, bien sûr. Ce qui est compliqué, c'est que bah, moi, dans mon activité de TDS, les clients ont l'image très clichée de la bite d'une meuf trans. Donc, ils ont l'image que je vais en avoir une de 15 km de long, alors que bah, moi j'ai pas de honte à le dire, j'ai une petite bite. Donc, voilà, à chaque fois, je suis bah, non, désolé. Et notamment sur le fonctionnement, je dois passer mon temps à leur dire calme-toi un peu, s'il te plaît, tu vas un peu fort et ça fait un peu mal.
Ça, c'est le truc qui m'énerve le plus, c'est que quand tu cherches de la représentation sexuelle, par exemple, pas pour moi évidemment, mais j'ai une amie, voilà, qui parfois regarde du porno pour se masturber, voilà, bon, ce n'est pas moi du tout
Une amie,
évidemment.
oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais, c'est voilà, elle vient d'une autre école, et ben, bah, typiquement, les meufs des top trans, elles se font, genre, désolé du terme, elles se font massacrer, genre, c'est super violent. Alors que sous hormones, bah, la peau est fragile, c'est plus sensible, et ce manque de représentation, moi, il m'énerve et il me limite, quoi.
Moi, je vous renvoie à la super vidéo de Yuffie, François de ta bite meuf, qui approfondit vraiment tout ça en détail. Et oui, clairement, quand tu dis. En fait, même dans la mollesse, ça existe, enfin, de par le fait que nos vécus sont invisibilisés, on doit apprendre vraiment. Enfin, c'est une connaissance qui n'est pas du tout innée ni acquise par beaucoup de monde, le fait que bah, ça devient fragile. Donc, même dans la mollesse, en fait, c'est pas une image qui est douce non plus. C'est pas l'image douce plutôt qui existe dans la tête de pratiquement tout le monde.
C'est ouf cette espèce de multi-standard où en même temps le porno nous filme, nous montre, nous éclaire, nous habille comme des femmes, mais nous traite au niveau de l'action et du détail de ce qu'on veut voir comme des mecs et cette espèce de double traitement. Je pense qu'on pourrait faire des études très intéressantes dessus, mais c'est complètement lunaire. Enfin, c'est à la fois ok, vous êtes des meufs et en même temps pas du tout. Mais si, enfin c'est ça marche sur la tête quoi.
Tu serais pas en train de dire que ce serait un peu transphobe par hasard?
si je crois.
Et je trouve ça surprenant en plus comment en fait les meufs trans dans les films porno ont toujours d'énormes poitrines et d'énormes tubs en fait. Tout est énorme et disproportionné. Alors que, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité parce que bah, je connais des meufs trans qui ont des grosses tubs pour le coup. Et je connais des meufs trans qui ont de grosses poitrines, que ce soit avec ou sans chirurgie. Mais j'ai l'impression quand même autour de moi, notamment au niveau de la poitrine, qu'on a rarement des poneys gigantesques en fait. Et vraiment, il y a une espèce de. Enfin, je reviens par rapport à mon activité de TDS, mais en fait, souvent les mecs cis qui fantasment sur nous n'ont aucune idée de à quoi on ressemble en réalité en fait. Genre, c'est vraiment ouf ça.
En fait, de ce que j'ai compris en parlant avec des vrais gens qui avaient des vrais fantasmes un peu fétichisants, oui, il y en a des vrais, ça existe, c'est fou, mais c'est comme ça. C'est qu'en fait, ils veulent toucher des bites, ils veulent expérimenter des bites, ils veulent se faire top, mais ils sont trop complexés pour le faire avec un mec. Donc, dans beaucoup de cas, c'est ils veulent une meuf qui leur permettra d'être hétérosexuelle et de toucher des tops. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des figures importantes.
En tout cas, pour revenir, enfin, je trouve que ce que tu dis est vraiment, enfin, en tout cas, tout ton texte sur le mou est vraiment super important et je te remercie d'avoir lu ce texte, écrit ce texte, cité le texte de Mirza, parce que vraiment, enfin, c'est des choses que, en fait, je trouve que beaucoup de choses de ce qu'on dit dans ce podcast, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise au début de ma transition, que j'aurais aimé savoir avant, enfin, je ne suis pas très très loin, moi, ça fait 2 ans maintenant. Mais c'est des trucs que j'aurais aimé et que je trouve ça cool s'il y a des sœurs qui sont au début, qui nous entendent. Je trouve que c'est cool et prenez des notes en quelque sorte.
Bah, c'était un peu le thème du podcast aussi, c'est être la personne qu'on aurait voulu rencontrer quand on en a eu besoin.
Moi pour le coup, il y a un truc qui m'a pas mal frappé dans ce qu'on a dit, c'est que des personnes avec lesquelles on relationne ne savent pas du tout comment ça fonctionne parce que n'ont que un fonctionnement de mec 6 via cet organe-là. Par contre, ça veut aussi dire que toutes les personnes qui se questionnent ou qui se questionnent sans le savoir ou qui juste cherchent à s'enseigner ou des personnes dans le placard, bah, on ne sait pas se projeter sur comment ça fonctionne, sur comment on va le recevoir. Et en même temps, on est un peu obligé parce que les changements sont tellement aléatoires d'une personne à l'autre que en fait, on n'a pas accès à ces vécus-là. Enfin, c'est aussi un peu pour ça qu'on fait ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, faut dire, cet inconnu-là, il nous a aussi concernés à un moment, en fait. Et pas que les personnes avec qui on relationne.
Du coup, on passe au texte suivant, si ça vous va. Le troisième et dernier de cette série aussi belle qu'incroyable et trop stylée et drôle.
Du coup, mon texte à moi, le texte, j'ai dû écrire l'intro à l'origine. Et en fait, j'ai dévié et finalement, ça a terminé en texte. Donc, j'ai sectionné pour faire une intro hyper concise. Et finalement, j'ai parlé juste du sujet tel quel. Du coup, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Hop, voilà. Le corps transfemme est, dans notre société, d'abord vu comme un corps en dehors des normes cis-hétéro. Ce serait un corps d'homme qui soit va être transformé pour être un corps de femme, soit va être changé pour paraître en être un, toujours et uniquement selon ses normes. Partant de ça, le corps transféminin est hors norme, ou extraordinaire. On pourrait faire un jeu de mots là-dessus. Il est l'objet d'une forme de rejet de l'assignation à une normalité, notion forcément arbitraire, et à ses règles, et ces règles pardon, ne sont en rien nécessaires ou plus justifiées que d'autres qui auraient pu être à leur place. C'est une façon un peu lourde pour dire qu'un corps transfemme n'est pas vu comme existant pour lui-même, un peu comme finalement ce que tu disais dans ton texte, sur une autre dialectique. Il est uniquement vu comme la dérivée d'un corps cisgenre aux yeux de notre société. Dans la préface d'un appartement sur Uranus, Virginie Despentes décrit ce que c'est que ce recueil de chroniques écrites par Preciado dans Libération. Et elle écrit ceci en parlant donc de ses chroniques. Et c'est aussi, bien sûr, l'histoire de ta transition, de tes transitions. Cette histoire centrale non pas du passage d'un point à un autre, mais de l'errance et de l'entre-deux comme lieu de vie, une transformation constante, sans identité fixe, sans activité fixe, ni adresse, ni pays. Tu appelles ce livre « Un appartement sur Uranus » et tu n'as pas d'appartement sur Terre, juste les clés d'un endroit à Paris, comme tu as eu les clés pendant 2 ans d'un appartement à Athènes. Tu n'emménages jamais, ça ne t'intéresse pas d'être fixé. Tu veux le statut de clandestin permanent. Tu changes ton nom sur tes papiers d'identité et dès que tu t'appelles Paul pour passer les frontières, tu écris dans Libé que tu n'as aucune intention d'adopter la masculinité comme nouveau genre. Tu veux un genre utopique. C'est comme si le possible était devenu une prison et toi le fugitif. Tu écris entre les possibles et ce faisant, tu déploies un autre possible. Fin de citation. Petite précision que je fais, c'est un point de vue extrêmement situé de Virginie Despentes sur la vie de Preciado. Et c'est important de le rappeler de leur point de vue et de ce que cet auteur et cette autrice représentent. Si j'ai parlé de ce texte, C'est parce que la transition est d'abord définie comme un carrefour par à peu près tout le monde. On se retrouve dans un entre-deux. Mais, à la manière d'Antonio Machado, je veux vous dire « Caminante no hay camino ». Voyageuse, il n'y a pas de chemin. Et ce que j'ajoute, c'est que, parce que votre propre vécu et histoire ne feront émerger ce chemin que lorsque vous vous retournerez. C'est pour ça que la transition fait peur. Il n'y a d'autre chemin que le nôtre, que le vôtre, invisible dans le présent, mais pourtant bien en train d'être tracé. Seulement, ne pas savoir, avancer à peine, s'arrêter, reprendre, ne jamais bouger, ce sont aussi des transitions, parce que nous changeons tous constamment, dans nos pensées et nos corps. Je vais encore parler de texte, mais Michel Guérin parle du geste comme de la pensée et de la pensée comme d'un geste. Le geste de nos transitions, c'est l'histoire de nos vécus, de notre cheminement jusque dans notre pensée. Nos vécus sont uniques, sacrés, et personne ne doit nous les voler. Et ce vécu, il est accaparé par la norme cis-hétéro. Si on ne remplit pas les cases de ce qui est censé être une bonne transition, on est constamment attaqué et renvoyé à notre différence. Ce carrefour est en fait présenté comme une autoroute autoritaire dans laquelle on ne sort pas, dans laquelle on ne s'arrête, enfin on ne peut pas s'arrêter, on ne doit faire ni vague, ni embouteillage. Et avec des radars pour contrôler qu'on n'aille ni trop vite, ni pas assez. L'autre pillage vis-à-vis de nos corps, c'est leur représentation. Et je pense que notre première rencontre avec un corps que l'on a identifié comme transféminin, c'était par le porno. Mais pas n'importe comment, le corps qui est toléré est instantanément l'objet d'une fétichisation violente. À la manière du corps des femmes dans le porno, les actrices sont des corps parfaitement ensabliés, des peaux parfaites, des poils à peine tolérés, c'est-à-dire les cils, les sourcils et les cheveux, et pas n'importe comment. La sexualisation est automatique, crée des fantasmes violents et nous remet sur une autoroute, comprenant aussi notre propre représentation captive d'industries nocives. Mais on devrait s'en contenter parce que, vous comprenez, c'est déjà bien qu'on soit toléré. Ma transition, mon coming in, c'est-à-dire le moment où j'ai accepté et vu que j'étais une femme trans dans le placard, a été retardée de pratiquement 10 ans à cause du porno. Parce que je n'avais que ces femmes trans, entre guillemets, parfaites, pour me figurer la femme trans, qui n'existe de toute façon pas. J'ai pris les euphoria boners, les érections de folie de genre, comme le signal que je n'étais qu'une forme de fétichiste, dont l'attrait pour la féminité n'était en fait que déviance sexuelle, et pas le signe d'un mieux-être pouvant exister dans la transition. Je précise avant de continuer que les euphories des érections d'euphorie ne sont pas liées au porno, simplement que je les avais, elles aussi, rendues uniquement sexuelles, alors qu'il ne s'agit que d'une réaction mécanique à l'euphorie déroutante qu'on ressent. Pour conclure, je veux vous dire que nous refusons cette assignation au fétiche. Nos vécus, nos transitions, nos corps sont les nôtres. Leur représentation, la manière dont on leur fait l'amour, les baises ou bien rien du tout, relève toujours de notre consentement seul. Un corps transféminin nu n'est pas plus sexuel qu'un autre corps nu. Les personnes nudistes en sont un parfait exemple. Et nous avons droit à cette nudité non fétichisée, non sexuelle et non érotique si on la refuse, ou bien uniquement si on l'accepte, y compris qu'en partie. Nos transitions sont l'affaire de nos vécus, ils sont forcément conditionnés par notre monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous parlerons et nous continuerons encore après. Les transitions débutent par l'auto-identification comme trans. Le reste, c'est aussi votre affaire, que vous soyez dans le placard, que vous souhaitiez y rester ou pas, que vous ayez un parcours médical, chirurgical ou pas, que vous fassiez des efforts sur votre voie ou non. Vous êtes mon Adelphe, si vous vous identifiez comme tel. Et l'esthétique des corps transféminins, nous la créerons tous ensemble.
Trop bien.
J'ai de nouveau grave envie d'applaudir, mais c'est pas très radiophonique, donc je vais pas le faire.
Vous en doutez pas, mais en fait, dès qu'on est hors micro, on fait que s'applaudir mutuellement, c'est terrible, j'ai mal aux oreilles, j'ai des acouphènes, c'est vraiment un métier compliqué. Mais j'aime bien ton texte parce que c'est à la fois un retour un peu théorique sur des choses, et en même temps c'est très intime et sincère. Et en même temps, sur la fin, c'est presque politique. Enfin, c'est un beau mélange, je trouve.
Totalement
Je
d'accord.
Suis contente que ça vous touche et que ça ait une alchimie que je pensais pas pouvoir
Bah, moi,
créer.
je trouve que nos trois textes, ils vont bien ensemble et on espère que nos éditeuristes en pensent autant.
Ce que j'aime beaucoup dans le tien aussi, c'est le point d'honneur que tu as mis à intégrer les gens qui penseront papa. Enfin, tu vois, enfin, tous les avis et tous les vécus différents, c'est-à-dire à un moment, ce qui me marque, c'est que tu dises. Tu parles de la sexualisation, alors je ne sais plus ce que tu dis exactement, mais tu dis qu'on l'accepte pas, mais qu'on peut l'accepter aussi, en fait. Tu dis à un moment, si on l'accepte, mais on n'a
Oui.
pas à l'accepter tout le temps. Et je trouve ça hyper important parce que, on peut se sexualiser aussi, mais en fait, c'est ce que je disais quand on a lancé un peu ce truc de se réapproprier nos corps. On a besoin de représentations sexualisées, mais on a besoin aussi de représentations non sexualisées. Les deux sont importants. On a besoin aussi de. Enfin, on a le droit d'être horny pour nos corps aussi, et pour les corps de nos adelfes et de nos sœurs. Et on a. Enfin, les deux sont importants, en fait. On a besoin des deux. Et juste, je pense que ce soit pas depuis un regard si centré, en fait. Sur nos cas.
C'est vrai que tu mets vraiment un point d'honneur dans chaque phrase que tu fais à inclure et à penser à la diversité. Et déjà, je pense que c'est un peu le gros combat de, bah, je vais pas dire du millénaire, mais de, enfin, c'est ce qu'on devrait tous faire autant que possible, c'est l'intersexualité. Et surtout, ça montre vraiment qu'on peut penser différemment, mais dans les mêmes directions. Et c'est vraiment, enfin, c'est bien que tu le dises.
J'ai pensé à un truc pendant que j'écoutais ton texte. En fait, notamment au début, quand tu parles des meufs trans dans les films porno, et en fait, je me suis dit, et c'est pas, je fais pas un reproche à qui que ce soit, ou alors je le fais seulement à moi, mais c'est que les meufs trans des films porno sont des meufs trans aussi, en fait, et qu'il faut pas l'oublier que c'est des humaines aussi, et pas juste. En fait, je me rends compte dans l'émission, on les a beaucoup prises un peu contre-pied, en mode oui, c'est une vision très fétichisée, très irréaliste. Mais elles existent, en fait. Elles existent et en fait, elles n'existent pas qu'au travers du prisme de. En fait, je pense que ce serait hyper intéressant de parler avec l'une d'entre
Oui.
elles. Et j'espère qu'elles vont bien, en fait. Tu vois, j'espère qu'au-delà de.
Comment?
J'ai beaucoup de respect pour leur activité. Et enfin, ici, personne ne reproche aux actrices des films porno qui ont des seins énormes et des tubes énormes d'être comme ça, en fait. Encore une fois, enfin, on n'est pas ici à reprocher au TDS d'être TDS, quoi.
Le problème, c'est pas elle en fait. C'est ce que l'industrie ne choisisse de montrer qu'elle. Mais elles font tout ce qu'elles peuvent, bien entendu.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais il y en a qui sont obligés aussi, il y en a qui vivent comme une obligation, juste d'autres qui sont telles quelles et qui arrivent à vivre de ça parce que elles sont acceptées telles quelles, parce que c'est, enfin, leur vécu correspond et fit. Et voilà, enfin, je veux dire, finalement, j'ai parlé d'autoroute autoritaire, mais on peut très bien décider de la suivre. C'est sûr que c'est question de savoir où sont nos vrais choix, mais bien sûr, enfin, leur vécu est autant vécu que les nôtres. Et c'est juste que l'usage qu'en fait l'industrie, enfin le capitalisme en général, mais l'industrie qui est liée, c'est surtout cet usage-là qui est nocif.
Bien sûr.
Bien plus que leur existence, bien plus que quoi que ce soit d'autre. Leur existence, c'est un danger pour
Je
personne, en
pense qu'il ne
fait.
faut pas qu'on théorise sur leur vécu à elles, puisqu'on ne le connaît pas
Ouais,
et qu'on
sûr.
parle en notre nom. Donc, c'était juste une pensée que j'avais que, en fait, c'était pas par rapport à vous, c'était vraiment par rapport à moi que je me suis rendu compte que je les ai presque,
Oui, tu
malgré
as raison
moi,
de le
considérés
dire.
un peu comme ennemis et je m'en veux un peu, du coup, d'avoir eu ce rapport là avec elles. Et notamment, en fait, c'est surtout ça, c'est finalement, si une meuf trans veut. Faire toutes les chirurgies possibles et vraiment essayer de rentrer dans la norme, mais c'est ok en fait. Ça, tu deviens meuf, et je parlais comme s'il y avait des. Je suis désolé si vous ne vous identifiez pas dans le terme meuf, je m'excuse, je vais essayer de. Enfin, bref, toi qui nous écoutes, si jamais tu veux enfin, rentrer dans la norme, c'est ok, ça fait pas de toi notre ennemi en fait. Et j'espère que tu es heureuse en tout cas, c'est le plus important, je pense. En fait, je pense que c'est un peu comme le féminisme, où le féminisme, pour moi, c'est laisser aux meufs le choix. Et j'espère que le transféminisme sera un peu pareil, c'est-à-dire que les meufs trans peuvent avoir le choix. En fait, il n'y a pas d'injonction à être ultra féminine ou de pas être féminine. C'est que chacune puisse avoir le rapport qu'elle veut à sa féminité.
C'est ce qu'on disait avec le fait de l'être soit trop, soit passé. En fait, le problème, c'est pas les meufs trans, c'est ce qu'elles essayent de faire, c'est les codes qui s'appliquent à elles malgré elles.
Bien sûr. En tout cas, enfin, pardon, vas-y.
Non, j'allais juste dire que ça fait trois textes qu'on parle de porno. Je vois qu'on est entre vrais spécialistes de la question.
Grosse connaissance sur le porno ici, hein. Alors, meuf à teub.
Disons qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que, et c'est pour ça qu'on en parle, pas pour en faire des ennemis, mais on en parle parce qu'en fait, c'est le premier contact qu'on a, et des fois, le seul contact définissant avant très longtemps. Enfin, c'est bête, mais les ressources, genre les Reddit, les Discord, les machins, enfin, ça prend du temps à trouver les bons endroits. Et en plus, des fois, la confiance qu'il faut avoir pour aller dans un Discord trans quand t'es un petit teuf en train de casser, c'est pas rien. Donc le porno, en fait, c'est la facilité et le seul truc auquel tu penses parfois quand tu commences à te poser des questions.
Et t'as des signes au contraire? Parce que du coup, bah, comme dit, si tu t'as un vécu ou t'as de l'euphorie qui se matérialise par quelque chose que tu identifies comme sexuel et ne pouvant que l'être, bah, tu peux pas avoir la connaissance de dire qu'en fait, il y a peut-être autre chose derrière. Si tu peux pas l'inventer. Et ça veut dire, comment dire, c'est plus un hasard malheureux que qu'autre chose.
Je me rends compte, le sujet de l'émission, c'était la beauté non fétichisée des corps trans femmes, et on a parlé de beaucoup de choses diverses et variées. Mais en fait, il faut voir ça comme une première émission, une émission un peu pilote. Certes, on avait un thème qui était donc la beauté, mais en fait, on a parlé de plein de choses, et c'est plein de choses qu'on, je pense, on peut approfondir. Le porno, on peut faire une émission juste là-dessus, parce qu'il y a plein de choses à dire dans notre rapport au porno, parce que Aurégane a totalement raison. Le contact qu'on a avec nos corps passe énormément par le porno. Ce qu'on a parlé dans le premier texte de la féminité, du rapport au maquillage, aux choses comme ça, on peut en parler aussi, et c'est prévu, je pense. Et aussi les changements qu'a sous-entendu, bah encore toi, Aurégane, dans ton texte, physique qu'on peut ressentir, le fait que la sexualité elle ne passe plus pareil. Ça aussi, il faut qu'on en parle. En fait, c'est une émission avec beaucoup de teasing de ce dont on pourra parler par la suite. Genre, regardez, c'est trop bien, regardez tout ce dont on pourra plus parler à l'avenir.
Je trouve qu'on a vraiment parlé de beauté quand même. Enfin, ce qu'on a dit sur le maquillage, c'était de la beauté. Ce qu'on a dit sur les corps mous, c'était de la beauté. Disons qu'en fait, ça recouvre tellement de choses qu'on est obligé de l'attaquer par ça, comme tu dis toi, par des petits angles. Et de petits angles en petits angles, peut-être qu'on va faire un grand parallélépipède.
Finalement, j'ai beaucoup parlé d'appréciation, enfin de non-fétiche que de beauté. Et en même temps, le comment se détacher du fétiche, c'est une question énorme en fait. C'est comment dire, c'est ouais, c'est finalement le pas de côté qu'on veut faire là. C'est jamais en une émission d'un podcast random sur Internet qu'on le fera, mais ça en fait partie. Et c'est enfin ce qu'on fait est important. Est-ce que les gens en font, c'est important aussi. Et finalement, la question qu'on a posée aux différents, enfin, les enregistrements qu'on a là, bah, on va parler de beauté, des personnes qui parlent de leur beauté, de leur vision, de leur vécu. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas que nos vécus, parce on est aussi un peu une grande famille.
Totalement, ouais, totalement. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'approche de la fin de notre podcast. Chose qu'on s'est dit qu'il fallait un moment où on faisait une pause, qu'on rappelle, c'est que parfois, dans le feu de la conversation, on a un peu peut-être donné l'impression de généraliser nos vécus et nos propos. Faut savoir que personne ici ne parle au nom de qui que ce soit d'autre que de soi-même, d'accord? Il n'y a aucune généralité qui n'est faite sur les vécus trans et transféminins notamment. La question qu'on a posée aux gens de l'Internet, c'est ce que vous trouvez beau dans vos corps, parce que qui de mieux pour parler de la beauté de nos corps que bah, nous-mêmes, et par nous-mêmes, je parle de manière générale, donc vous aussi en fait qui nous écoutez, si vous êtes des sœurs ou des adelfes, bah, vous aussi vous avez le droit de dire ce que vous trouvez beau dans vos corps et de montrer que justement dans nos corps, il y a la possibilité d'y trouver de la beauté à chaque fois. On va donc passer les enregistrements qui vont répondre à la question qui a été posée à l'Internet, à savoir ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous trouvez beau dans vos corps. On a reçu tout type d'enregistrements, certains qu'on va devoir lire, d'autres qu'on va passer tel quel, puisqu'on a reçu des audios. Voilà.
D'autres qu'on va jouer à la flûte aussi.
Il y en a sous forme de pièces de théâtre.
Et oui, du coup, sur la question des généralités, c'est vrai que en vrai, c'est déjà super dur de généraliser ce qu'on pense à soi-même, alors aux autres, vous inquiétez pas, on n'en est pas encore là.
Ok, donc après ces conversations sur ces trois textes, On va passer aux enregistrements. On a posé une question à l'Internet avec un I majuscule. C'était plutôt qu'est-ce que vous trouvez beau dans vos corps, dans votre corps, du coup, parce que vous en avez généralement un seul par personne, il me semble, aux dernières nouvelles. Du coup, on va laisser la parole aux différentes personnes qui nous ont envoyé des textes ou alors des enregistrements. Donc, certains vont être lus, d'autres vont être juste passés tels quels. De personnes transféminines qui vont vous dire ce qu'elles, enfin tout type de pronoms aiment dans leur corps. Et je trouve ça super chouette comme idée en vrai et comme exercice d'essayer de penser à ce qu'on aime dans nos corps. Avant ça, bah, c'est pour nous la fin, c'est-à-dire que nous, l'enregistrement va s'arrêter là, il y aura une conclusion après. Donc c'est la fin de cette première émission qui était un peu un pilote. Je vous cache pas qu'on était un peu... Vous voyez, les meufs trans, quand elles se maquillent pour la première fois, bah, on était un peu pareil là, en fait. On se maquillait pour la première fois ce soir, enfin ce soir ou ce matin, selon quand vous nous écoutez. Mais c'était notre premier trait de eyeliner, donc c'était peut-être parfois maladroit. Peut-être que parfois on s'est laissé emporter, peut-être que parfois on aurait dû se laisser emporter. Mais c'était, pour moi, je vais parler encore une fois, on ne généralise pas, donc je vais parler que pour moi. C'était une expérience grave chouette, enregistrée ce soir avec vous deux, chers amis. Voilà, je vous laisse aussi la parole sur comment vous avez vécu ça.
Il y a une personne très belle qui a dit que même dans les premiers traits d'eyeliner ou les maquillages maladroits, on était très belles. Moi, je nous ai trouvées belles. Et du coup, j'ai très hâte de tous vous retrouver la prochaine.
Ouais, je trouve que c'est le début de quelque chose de beau, on va dire.
Je suis bien d'accord. Au revoir à tous et à toutes. Le plus important pour nous, c'est de parler entre nous, mais c'est que vous nous écoutiez et que vous appréciez. N'hésitez pas à réagir à tout ce qu'on a fait et dit. S'il vous plaît, vos avis nous importent, même sur l'organisation générale du podcast, on prendra ou peut-être pas vos idées, mais on veut les entendre.
Et vos retours aussi.
Oui, vos retours et vos vécus sont aussi, enfin, je pense aussi le cœur de ce pourquoi on fait tout ça.
Et ben, salut tout le monde en tout cas. Gros cœur sur vous.
À la prochaine.
Zoubi.
Et maintenant que le podcast est terminé, avant de partir, place au témoignage de nos auditeurs.
La question n'est pas évidente, car j'aime beaucoup de choses dans mon corps. Ses nouvelles formes, sa douceur, ma chevelure. Je voulais vous partager quelque chose qui ne vient pas forcément à l'esprit. Mes yeux. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, car les yeux ne changent pas. Mais mon regard, oui. Avec les changements de mon visage, mon regard s'est agrandi et a mis en valeur mes yeux bleus. Je m'étais jamais rendu compte à quel point... je pouvais avoir un regard aussi intense et envoûtant. Cette partie de moi, finalement, existait déjà et a été mise en valeur au fil de mon parcours. Et c'est ça que j'aime le plus.
J'aime bien mes cheveux. C'est une grosse source d'euphorie pour moi. Et quand j'ai failli les perdre l'autre jour à cause d'une couleur foirée, j'ai pleuré pendant toute la journée. J'aime bien ma silhouette. Elle s'est rapidement féminisée avec le THS. Et de pair avec mes fesses et mes cuisses, ça me donne un côté très sexy qui me plaît beaucoup. J'avais peu d'espoir pour ma poitrine compte tenu de mon héritage génétique. Mais au final, ils sont très beaux et je crois pas avoir souvent touché des seins aussi fermes chez mes ex-6.
Salut les mafatub. Alors, ce que je kiffe chez moi, du coup, c'est au fait le contour de mon corps. C'est quelque chose, quand je lève les bras, par exemple, même quand je me déshabille face à un miroir, c'est quelque chose que je regarde avec beaucoup d'euphorie, parce que je vois simplement la courbe. De mes bras, puis de mon torse, de mon ventre, de mes hanches, de mes cuisses, etc. Et c'est une courbe que je vois évoluer tout doucement, mais qui est extrêmement fluide, extrêmement belle, et que j'adore. Et vraiment, c'est la chose que je préfère. C'est ce contour au niveau de mon corps que je trouve magnifique et qui progresse encore et qui, du coup, me donne beaucoup d'espoir. Qui me rappelle aussi que parfois, bah, je me focalise sur certains détails, sur un poil que j'aurais oublié un peu de couper, enfin de raser à un endroit, ou un grain de beauté qui serait mal placé. Et le fait de repenser simplement à ce contour, je me dis qu'en fin de compte, c'est en tant qu'être humain en entier que je me trouve belle et que ces petits détails, en fin de compte, bah, c'est que des imperfections sur un tableau qui vaut des millions. Voilà.
Pour donner un peu de contexte, j'ai 20 ans et un THS femme depuis 5 mois, donc relativement peu de changements par rapport à avant. Du coup, de manière générale, j'aime bien mon visage. Je trouve que j'ai de jolis yeux et de jolis sourcils. Je trouve que j'ai de très belles fesses et hanches, j'aime bien ma silhouette. Depuis que je suis allé chez le coiffeur, je kiffe ma coupe de cheveux. J'ai tondu un côté et laisse pousser l'autre. Pour une raison inconnue, ça m'a vraiment affirmé. Genre, je me sens vraiment mieux depuis que j'ai une coupe plus féminine. Donc overall, j'aime bien mon corps. Forcément, il y a des trucs que j'aime pas, mais je sais que ça va changer avec mon THS, donc c'est cool.
Coupé.